vivons dans un monde un peu de surexposition, on met en lumière notre vie, nos résultats du travail, nos relations. Et pour moi, la modestie, c'est cette retenue et la concentration sur nous-mêmes, sur nos besoins et la vie privée et nos valeurs. Et pour moi, dans la mode, ça se reflète sur le savoir-faire et cette idée de temporalité, de prendre le temps de réaliser un œuvre, de l'apprécier et remettre en fait l'humain au centre de la mode. À mon sens, c'est ce qui est perdu aujourd'hui.
Avant de commencer, êtes-vous prête à explorer la créativité à travers le prisme de la modestie? Si c'est le cas, bienvenue sur Almas Podcast. Le but ultime est de tendre vers l'excellence avec élégance, que ce soit dans nos projets entrepreneuriaux ou notre qualité de vie. Chaque semaine, retrouvez une conversation avec une femme pétillante et créative qui partage son parcours, ses réflexions et ses inspirations. Tous les autres jours, je me prête à l'exercice en vous partageant une toute petite réflexion en lien avec la notion de modestie. J'ai deux petites faveurs à vous demander. Premièrement, remercie l'invité pour son temps et sa générosité. Ensuite, abonnez-vous au podcast, notez-le 5 étoiles et partagez-le avec des personnes qui pourraient être intéressées. Ces actions sont totalement gratuites, mais leur valeur est inestimable. Merci d'avance si vous y pensez. Enfin, pour avoir accès direct et immédiat à toutes les références artistiques, mode et livres recommandés par l'invité, abonnez-vous aux Lettres Lumière via le lien en description. Et maintenant, sans plus attendre, place à notre conversation. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Diane.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bah de rien, c'est avec plaisir.
Surtout qu'on a essayé de se voir à plusieurs reprises, mais avec toute la situation, il y a eu beaucoup de modifications.
Exact.
Donc là, on enregistre à distance. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Stéphanie Strauss et je suis danoise. Je vis en France depuis 10 ans où j'ai travaillé dans la mode.
Et pour commencer, est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la modestie dans la mode, justement ?
Oui, pour moi, je trouve ça très intéressant de parler cette idée de modestie. On n'en parle pas très souvent dans la mode, c'est pas les mots qu'on utilise le plus souvent. Mais pour moi, la modestie a un lien avec la temporalité. Il y a un côté, je trouve, d'être la modestie, ça a un sens autour d'une réflexion sur le savoir-faire, sur la temporalité du design et de la production. Pour moi, là, c'est de. Nous vivons dans un monde un peu de surexposition. On met en lumière notre vie, nos résultats du travail, nos relations. Et pour moi, la modestie, c'est cette retenue et la concentration sur nous-mêmes, sur nos besoins et la vie privée et nos valeurs. Et pour moi, dans la mode, ça se reflète sur le savoir-faire et cette idée de temporalité, de prendre le temps de réaliser un œuvre, de l'apprécier et la durée de la mode. Du coup, c'est cette idée de pas prendre la mode et de le jeter tout de suite, mais de réellement l'apprécier pour ce que c'est et le travail qui est derrière.
Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une notion quand on s'était vu il y a quelques mois de cela que tu avais énoncé et qui m'avait aussi marqué. Tu avais un peu aussi comparé la modestie à une forme de modération, notamment dans la manière dont on crée les vêtements.
Oui, exactement. C'est y a cette idée, à mon sens, que la mode, ça prend du temps, en fait. Il y a une personne derrière, il y a... De créer le fil, de tisser le tissu et après faire de la mode. On pense peut-être souvent juste aux gens qui est dans la production, en train de coudre. Mais il y a toute une partie derrière aussi qui prend du temps. Et cette modestie dans la mode, cette manière de le mettre en avant, à mon sens, pour que ce soit une mode durable dans le temps, il faut qu'il y ait un côté un peu épuré. Un côté sans temps, que c'est pas dans une mode du moment, mais une mode plus long terme. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus épuré, plus clair peut-être.
C'est une mode
intemporel qui s'inscrirait dans la durée.
Exact, exact.
Non, désolée, je t'ai coupé.
Non, c'était pour dire, oui, effectivement, que ça ne peut pas être un imprimé du moment sur, ou avec un texte du moment. Si on dirait un t-shirt, je suis confinée, par exemple, ben, ça ne va pas durer dans le temps, espérons.
Mmh. Et il y a aussi cette partie liée à la responsabilité qu'on pourra avoir vis-à-vis du vêtement, dans le sens où cette mode devrait aussi, je pense, être responsable et respecter la nature. On peut aussi voir la modestie dans ce sens-là. Je crois que tu avais aussi évoqué cet aspect-là.
Oui, complètement. Ça, c'est... Mais pour moi, c'est ça qui vient quand on remet en fait, l'humain au centre de la mode. À mon sens, c'est ce qui est perdu aujourd'hui. On n'y pensait pas quand on achète un t-shirt, tout le travail, toutes les personnes qui se sont investies pour la mode derrière. Il y a une personne qui a récolté le coton, il y a une personne qui a tondé le mouton ou qui a fabriqué le fibre. Toutes ces personnes, il faut les remettre au centre de la mode aujourd'hui, à mon sens. Il faut retrouver le respect des travails de ces personnes-là. Et quand on remet ça au centre de la mode, à mon sens, on a une modestie, on est humble devant le travail de tous ces gens-là. Et on comprend que le vêtement a une autre valeur. Un t-shirt aujourd'hui coûte quasiment la même chose. T'as un café, c'est... chez Starbucks, et à mon sens, ça, c'est pas de la modestie, on n'est pas humble devant cet énorme travail qui constitue la fabrication du vêtement. Et pour moi, ça, c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui.
Donc, il faudrait prendre conscience de la chaîne de valeur d'un vêtement et se dire que si on trouve un t-shirt à 2 euros, c'est qu'il y a peut-être un problème derrière la manière dont il a été fabriqué.
Complètement, c'est pas que peut-être il y a un problème, sûrement, quasiment sûr, un problème. Et toute le fast fashion, c'est ce problème-là. C'est pas une question d'être contre le design ou les gens qui travaillent chez Zara ou chez H&M. C'est tout leur modèle économique qui est un problème. Parce que eux, ils ont pas de respect envers toutes les gens qui travaillent pour eux. La mode, c'est une industrie de femmes. Il y a une raison pour ça. C'est parce que la femme, traditionnellement, coûte moins cher qu'un homme. Du coup, c'est des femmes et souvent aussi des très jeunes filles qui travaillent dans la mode. Et il faut voir le respect de se dire que ces gens-là, ils ont mis leur vie en danger de temps en temps, ou ils ont en tout cas donné tout leur temps pour travailler, pour créer la mode pour notre partie du monde. Et il faut voir le respect et de comprendre que ça a une valeur. Et c'est pas uniquement une valeur financière, c'est une valeur aussi de leur travail, de respecter le temps qu'ils ont utilisé, de leur savoir-faire.
Donc, recentrer les business models au centre de l'humain et non de la quête de profit, en fait, à tout prix.
Complètement. Et ça, c'est si on fait ça, en fait, on respecte pas seulement l'humain, on respectera aussi la nature. Parce que la nature aussi ne peut pas du tout supporter tout ce qu'on le fait. Cette industrie est très, très, très polluante et a un impact énorme sur la mode. Et ça, c'est vraiment... c'est aussi de remettre l'humain et la nature au centre de la mode.
Donc, le changement est entre nos mains, c'est à nous, avec nos actions, d'œuvrer pour avoir un monde et une mode meilleure. Et si on commence maintenant à parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes études ?
Oui, avec plaisir. Bah, moi, j'ai été formée en tant que modéliste. J'ai fait mes études au Danemark. C'est vraiment sur la réalisation des patrons, c'est-à-dire je reçois un croquis ou un dessin de la part du créateur, et après c'est vraiment la réalisation du patron et les dessins techniques pour pouvoir procéder à une production. Pendant mes études, que j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup rendu compte de cette idée de la production, les problématiques qu'on a, parce qu'on calcule aussi le tissu, on calcule le temps que ça va prendre pour pouvoir finalement calculer un prix final du vêtement. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y a une injustice dans le temps qu'on prend en tant que créateur ou modéliste et le temps qu'il prend les personnes qui produisent le vêtement. Du coup, je me suis dit que je voulais aller plus loin dans mes études et je suis partie à Londres pour faire un bachelor sur toute la communication et comment promouvoir la mode, comment parler de la mode. Que j'ai fait du coup 3 ans à Londres. Au Danemark, on n'avait pas ce type d'études, du coup je suis dû partir à Londres pour le faire. Et après mes études, je voulais travailler en France.
Je te coupe un peu,
oui.
Parce que j'avais une question. Entre le Danemark et Londres, l'Angleterre, est-ce que tu as remarqué des différences dans l'éducation ou même dans la vie des études?
Oui, tout à fait. Oui, les études à Londres sont beaucoup plus poussées sur la mode, en tout cas à ce moment-là. Il y a quand même plus de 10 ans que j'ai fait ces études. Le Danemark étant un pays de presque 6 millions d'habitants, il n'y a pas du tout des écoles de mode hormis du stylisme. On peut être designer au Danemark, on peut faire ses études, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de réelle étude sur la communication, sur toute l'industrie autour de la mode qui n'est pas dans la production. Et je pouvais choisir entre la France et l'Angleterre ou l'États-Unis à ce moment-là pour les meilleures écoles ou la Belgique ou il y en a d'autres. Hein, et j'ai choisi Londres parce que déjà ça a une très bonne réputation pour les écoles de mode et en même temps aussi parce que c'était en anglais et qu'à cette époque-là mon français n'était pas c'était pas très bien et je me sentais pas de faire des études en français.
Et si tu devais résumer tout ce que tu as appris en 3 ans de bachelor à Londres, quelles seraient les principales leçons, les principaux enseignements que t'ont apporté ces années à Londres?
Très bonne question. C'est surtout, je pense, une compréhension de l'industrie de la mode. Que moi j'ai appris. Nous on a fait des projets où j'ai fait des projets très variés sur des grands magasins, sur des petits créateurs, sur même sur des magazines de mode. Du coup, je pense que j'ai une formation assez assez large sur comment fonctionne toute cette industrie.
Et comment s'articuler les projets, par exemple? Mettre en place une communication pour un grand magasin, quel type de projet, tu faisais?
Oui, ça pouvait être ce genre de choses. J'ai fait un projet où je voulais mettre en lumière les galeries Lafayette. Et j'avais fait un projet où j'imaginais que les galeries collaboraient avec des jeunes créateurs pour les mettre en avant. Et que chaque jeune créateur avait du coup une vitrine à imaginer et qu'à l'intérieur il y avait du coup aussi une stand pour chaque jeune créateur et que ça soit en plus en lien avec la fondation des Galeries Lafayette pour qu'il y avait une partie commerciale et une partie plus exposition en lien avec eux. Du coup, ça, c'était un des projets.
Je pense que c'était un peu avant-gardiste à ton époque où il y avait déjà... Parce que je sais qu'actuellement, on veut beaucoup mettre en avant les jeunes créateurs. Mais à l'époque où tu as fait ce projet, par exemple, c'était déjà le cas ou pas du tout?
En tout cas, je ne l'avais pas vu avec les department stores, les grands magasins. Et je pense qu'en tout cas, en France, on ne le mettait pas beaucoup en avant. À Londres, ils ont toujours eu historiquement plus une attention vers les jeunes créateurs. À mon sens, c'est la grande différence entre Londres et la France et au Paris. C'est cette attention envers la jeune création. Londres, à mon sens, a plus d'attention vers vers le côté avant-garde des créateurs qui prennent plus de risques, que Paris est plus traditionnel, même si aujourd'hui Paris essaye de élargir un peu cette notion. Mais historiquement, ils sont tellement des grandes maisons qui prennent beaucoup de place qu'il y a moins de l'attention vers la jeune création.
Et donc, ces projets, ça t'a appris à piloter et mettre en place des campagnes de communication?
Oui, tout à fait. Du coup, on mettait en place la communication, mais aussi de réfléchir à quand on a un créateur, qu'est-ce qui est tout le travail qui passe derrière. C'est pas seulement de créer ou de produire, c'est aussi quelle est l'image qu'on veut transmettre, quelle est l'histoire qu'on veut transmettre. Et tout ça, ça passe par non seulement les réseaux sociaux, un site internet, mais aussi par les défilés ou par le retail, comment on l'expose dans un magasin, ou est-ce qu'on fait des ventes à distance, on fait des ventes avec des clientes en une à une. Il y a toute une réflexion derrière que j'ai beaucoup appréciée à cette école, aussi parce qu'on était, il y avait plusieurs formations et on faisait beaucoup de collaborations avec les autres, ou les créateurs, avec les journalistes, il y avait une formation pour devenir, pour travailler dans la haute couture. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment une formation qui m'a beaucoup appris dans cette notion de la mode que en tout cas, je connaissais pas avant et que je connaissais surtout pas du Danemark.
Et quelle était ta matière préférée?
Alors, ça n'a un peu rien à voir, mais c'était, on avait comme ça, ça s'appelle des fashion studies, le culture studies, et c'est sur l'histoire de la mode. Ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé parce que ça avait un lien plus avec le monde et l'histoire de nos cultures. Malheureusement, c'était très basé en Europe, mais il y avait tout ce temps, on apprenait du coup l'histoire du début de la haute couture et du prêt-à-porter et le lien que les créateurs avaient avec d'autres artistes, avec des peintres, avec des écrivains, avec l'architecture. Et j'avais une sensation que la mode au début du XXe siècle avait plus un lien avec de définir le monde dans lequel on vivait. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, la mode avait moins cette notion, moins d'impact. Que la mode, entre les deux guerres et même après la Deuxième Guerre mondiale, avait comme un message à passer. Passer une réelle notion de la culture dans laquelle on vivait. Il y avait beaucoup de collaboration avec d'autres artistes, avec les autres arts. Et j'ai trouvé ça très beau, mais je trouve qu'on l'a un peu perdu aujourd'hui. Et ça m'intéressait beaucoup.
Peut-être que ça va revenir, comme là on est en train de traverser une crise qui chamboule beaucoup de choses sur tous les plans.
Oui, oui, je pense. Ça peut,
parce que
ça
j'ai l'impression que la créativité... Elle émerge après une crise ou après un événement tragique.
Oui.
Et c'est peut-être ce qui s'était passé après la guerre. À chaque fois après chaque guerre, il y a un nouveau mouvement qui se crée avec des valeurs fortes qu'on prône.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Historiquement, c'est ça, en fait. C'est que pendant les grandes crises, il y a toujours eu un besoin de la créativité. Non seulement parce que souvent, les ressources étaient faibles. Du coup, il fallait réinventer une manière de produire, réinventer une manière de réutiliser. Le upcycling existait déjà à cette époque. Mais aussi un besoin de créativité, un besoin de créer quelque chose, de remettre la créativité au centre de notre existence. Du coup, je pense que dans tout moment de crise, il y a clairement un retour à la créativité. Et espérons qu'aujourd'hui, ça, ça recommence.
Oui, j'espère vraiment qu'il y ait une créativité beaucoup plus saine et bienveillante. Et si on revient sur tes études, donc tu as après tes 3 ans de bachelor à Londres, tu es venue en France, c'est ça?
Oui, j'ai fait la dernière semestre. J'ai eu un poste à la Villa Noailles, hier, dans le sud de la France, pour le festival de mode et de photographie, qui est un festival qui est en tout
cas... Et donc, là, je te coupe, mais là, parce que tu disais qu'avant, si tu avais choisi Londres, c'est parce que tu parlais pas français. Donc, à Londres, tu as pu te perfectionner en français pour partir en France ou tu as appris en France?
Non, j'ai pas pu beaucoup me perfectionner, mais le festival ailleurs, c'est un festival international. Et du coup, j'avais l'opportunité de beaucoup travailler en anglais. Et en même temps, ils étaient très bienveillants et je me suis vraiment installée là-bas pour en même temps perfectionner mon français. Du coup, j'avais la chance de travailler en anglais, mais parler en français dans mon quotidien avec les collègues là-bas. Du coup, c'était le parfait mélange entre travailler dans une langue dans laquelle je me sentais plus à l'aise, mais en même temps aussi avancer en français.
Et qu'est-ce que tu faisais pendant ce stage ou un semestre? C'était un stage?
Oui, c'était un stage de fin d'études où j'écrivais mes mémoires pour eux. J'ai travaillé surtout sur la promotion et les partenaires pour le festival. Du coup, c'est un festival qui regroupe 10 jeunes créateurs qui ne sont pas encore dans la production, qui sont vraiment encore soit en fin d'études, soit pas encore lancés dans une entreprise. Et c'est un concours où les 10 créateurs, du coup, exposent une collection et un défilé à la fin du festival avec un jury qui, du coup, donne des prix. Je crois qu'à l'époque, il n'y en avait que 2 prix, mais aujourd'hui, ça a beaucoup développé, il y a beaucoup d'autres sponsors et ça a pris une ampleur. C'est vraiment un festival qui s'est beaucoup développé les dernières années. Mmh. Et du coup, je travaillais avec eux. Et la Fédération de la haute couture et de la mode, du coup, ça, c'est la fédération qui organise les Paris Fashion Week, sont partenaires de ce festival, et du coup, je les avais rencontrés, et après, j'ai eu de la chance qu'ils m'ont proposé un travail.
Donc, après cette expérience au festival, tu es allée travailler à la Fédération de la haute couture et du prêt-à-porter.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis partie à Paris.
Quelle était ta mission?
Et là, je travaillais pour, ça s'appelle les accréditations. Et c'est de sélectionner quelle est la presse qui peut être accréditée pour après être sur une liste qu'on envoie aux maisons qui défilent. À partir de cette liste, les maisons de couture sélectionnent quels sont les journalistes qui souhaitent inviter pour les défilés.
Et comment se base cette sélection? Comment vous choisissez quel journaliste ou quel journal vous souhaitez accréditer ou pas?
En fait, toute journaliste qui ont une magazine de mode peut être accréditée. Moi, quand j'ai travaillé, au début, on commençait à accréditer les blogueuses et les magazines digitales. C'était une très grande discussion parce que comment choisir, en fait, effectivement, quelle est la notion qui fait qu'une blogueuse ou un blogueur peut être sélectionné, une magazine ne peut pas être sélectionnée. Et ça, c'était un réel discussion qu'on avait avec les maisons, parce que c'était une notion aussi ou une difficulté ou une problématique que les maisons devraient aussi commencer à sélectionner et de comprendre, en fait, l'ampleur que ça prenait avec les réseaux sociaux, même avec des YouTube, avec des blogs. Et c'était quelque chose que que la fédération et que les maisons de couture n'avaient pas eu ce problématique avant. Qu'en Chine, depuis, ou en Asie, en règle générale, depuis des années, ça existait déjà.
Donc là, c'était tout nouveau, ça venait de commencer.
Ouais, ça venait de commencer. Et c'était compliqué, même pour les photographes. Est-ce que, vu que maintenant, tout le monde pouvait prendre des photos avec leur iPhone, toute personne pouvait acheter un joli caméra et de prendre des photos pendant les défilés et de les poster et de les vendre. Et ça bousculait tout le système de la mode, en fait. Parce qu'avant, les défilés étaient que pour l'industrie. Et 6 mois après, on publiait quelques photos, on le mettait en avant. Que pendant que j'ai travaillé à la fédération, ça a changé que les premières maisons ont commencé à faire du live streaming. On pouvait voir les défilés en live. Et en fait, ça a changé la notion du défilé. Parce que ça montrait... Du coup, les tendances, 6 mois en avance. Et du coup, 3 semaines après, le fast fashion pouvait avoir exactement les mêmes pièces. Et ça a vraiment créé un débat et les maisons n'étaient pas d'accord tous sur ça. Mais rapidement, on a vu l'ampleur que ça prenait le digital et c'était impossible de l'arrêter. Aujourd'hui, quasiment tous les défilés, on peut les voir en live et ça a moins le notion, le côté de tendance, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, mais plutôt tout de suite après les défilés, beaucoup de marques mettent en vente la collection. Donc, ça a changé tout le côté des saisons et les collections.
Et ça rend aussi... la mode ou je dirais le visionnage d'un défilé beaucoup plus accessible parce que maintenant n'importe qui avec un simple smartphone peut visualiser en direct un défilé en fait.
Exactement. Oui, ça a démocratisé la mode et que personnellement je trouve ça très bien. C'était un monde très fermé, très entre soi. C'était pour l'élite et la mode touche. Tout le monde porte la mode. C'est ça qui est incroyable dans cet art, contrairement à la peinture ou la danse ou la musique. C'est que la mode, tout le monde porte la mode. Tout le monde a besoin de la mode. C'est un besoin, une nécessité. Et je trouve ça très bien que le digital est arrivé et que ça a permis... de montrer que c'est pas si enfermé, c'est pas un monde à part, c'est un monde qui nous touche tous et qui correspond à toute personne.
Et c'est une partie intégrante qu'il faut prendre en considération en tant que marque, que ce soit dans sa stratégie ou même dans sa manière de communiquer et de vendre.
Oui, je pense que ça a changé aussi. Avant, je pense que ça a ouvert la mode à des cibles et à des personnes qui avant n'avaient pas accès. Et c'est pas, je parle pas uniquement financièrement, mais il y avait une représentation de la femme, en tout cas, mais même de l'homme, qui était très uniforme. Il y avait peu de diversité, il y avait peu de différents types de personnes. C'était tout le temps un peu la même chose. C'était la mannequin blanche, soit blonde, soit brune, mais ça restait là. Et je pense que de offrir la mode à toute une autre cible, ça fait que la diversité a trouvé sa place. C'est pas encore parfait, hein, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins ça a un peu lancé cette notion.
Ça commence à bouger.
Ouais, tout à fait. Je suis d'accord.
Et tu es restée combien de temps à la fédération ?
Je suis restée 3 ans avec eux. Et après, je suis partie parce que c'est une toute petite équipe. Il n'y avait pas vraiment, à ce moment-là, de la place pour moi d'évoluer. Et que j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de travailler sur des sujets qui me touchaient plus, qui étaient plus personnels pour moi. Et je trouvais déjà que la mode, même si ça a évolué, c'était encore la mode à l'ancienne. J'avais envie de travailler avec des nouvelles vagues, des nouveaux mouvements que je voyais déjà dans la mode et qui m'intéressaient déjà.
Et qu'est-ce que tu as fait alors après cette expérience ?
Après cette expérience, j'ai créé une marque. J'ai créé une marque de... On faisait la teinture végétale. Du coup, on avait créé une marque, c'était avec une collaboratrice. Et on avait créé une marque de linge de maison. On faisait la teinture végétale, c'est-à-dire on allait récupérer des déchets dans les restaurants. Par exemple, des fans de carottes ou sur les marchés. Des fans de carottes, des peaux d'avocat, les peaux de betterave, tout ce qu'on pouvait trouver. Et on faisait des teintures végétales. Et c'était dans cette idée de montrer qu'on a teint les tissus, mais depuis, je pense que en Égypte, on le faisait déjà. Du coup, c'était de revenir à une mode d'hier, mais qui est aussi à une place aujourd'hui. C'était très beau à voir qu'est-ce que la nature peut nous donner. Par exemple, les fans de carottes donnent une jaune un peu orange, que les fans sont vertes. Les peaux d'avocat donnent une rose un peu pâle. Et j'aimais beaucoup cette notion liée avec la nature. J'ai toujours beaucoup aimé de jardiner, de cuisiner. Du coup, ça, je pouvais pour une première fois marier ces deux passions.
Mais vous aviez une marque en ligne ou...
Oui, on avait une marque qui vendait en ligne. Ça n'existe plus, mais c'était une marque qu'on avait créée, mais on était un peu en avance. Je pense sur ces notions de la teinture et même de toute cette idée de la mode durable. Et le consommateur n'était pas encore prêt à le faire, même si on avait vendu au bon marché, on avait quand même eu des jolies expériences. Mais de réussir à réellement créer une marque qui fonctionne et qui permet d'évoluer et de payer les salaires, c'est une autre chose. Et on n'a pas réussi ça.
Donc, on a l'expérience, ça a duré combien de temps ?
Ça a duré un an et demi.
D'accord.
Ouais. C'était une très belle expérience.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Et après, j'ai... Je suis partie vivre au Danemark. Je suis retournée au Danemark parce qu'on m'a proposé un poste pour une marque qui s'appelle Minimum. Et je suis revenue, j'avais envie de retourner un peu chez moi, repartir vivre au Danemark. Et j'avais eu une opportunité de travailler pour cette marque, pour développer leur collection à l'étranger. Du coup, Et j'avais comme pays, j'avais quelques pays dans lesquels je devrais développer la marque, notamment la France, et l'Espagne et Israël. Et j'ai passé du coup mon temps à voyager, à aller développer ces marques. Et ça me permettait de garder un lien avec la France. Mmh. Ce qui m'a bien fait réaliser que j'avais besoin de revenir en France et de réellement travailler en France.
Donc après, tu es retournée en France ?
Je suis retournée en France, j'ai repris un poste à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode parce qu'ils m'avaient proposé de développer les jeunes créateurs à l'international. Et c'était un poste c'était vraiment un poste de mes rêves. J'étais chef de projet, je devais monter des projets de A à Z. Trouver le financement, trouver les créateurs, les aider à se développer, monter des projets à l'international. Du coup, on a monté un super projet en Chine, à Shanghai. On est parti avec cinq créateurs pour pour les aider à se développer en Chine, qui est un marché assez complexe et difficile pour beaucoup de créateurs, mais avec un énorme potentiel, forcément.
Et du coup, et quand tu dis, je te coupe, mais quand tu dis les aider à se développer, c'est-à-dire leur trouver des revendeurs, mettre en place des campagnes de communication digitale pour trouver une clientèle étrangère, quelles étaient les actions
Oui, c'était exactement, c'était toutes ces actions-là, c'est-à-dire ça dépendait un peu des créateurs. Les créateurs n'étaient pas au même niveau, certains avaient déjà lancé leur marque en Chine. Et du coup, ils avaient peut-être besoin d'aide pour, avec un avocat, avec un juriste, comprendre quelles étaient les lois, quelles étaient la possibilité. Certains, c'était de trouver un agent ou un distributeur. Certains, c'était de premièrement avoir un contact chez une boutique ou chez une chaîne de boutiques pour se mettre en place. Et ils avaient tous besoin de communication, ça c'était sûr. C'est tellement une autre manière de communiquer, c'était beaucoup plus en avance. Le digital est énorme chez eux, le WeChat ou TikTok, tout ça, c'est des réseaux qui fonctionnent mais extrêmement bien chez eux. On peut tout faire sur les mêmes plateformes. Et les créateurs avaient beaucoup de mal à... C'est des marchés difficiles à franchir quand on ne les connaît pas bien. Et du coup, je m'occupais de trouver des contacts, un réseau en Chine avec Business France et avec l'Institut français en Chine. Et on montait du coup pendant une semaine... On avait des talks, on avait des conférences, on avait des meetings. Et du coup, ces jeunes créateurs étaient comme ça submergés dans ce monde en Chine. C'était un très, très beau comme projet.
Ils étaient accompagnés. Et après?
Et après, j'ai monté plusieurs projets dans le même style, mais malheureusement, j'ai eu un problème en interne avec mon chef de l'époque, et ça s'est très très mal passé, et j'ai fait un burn-out complètement. Je me suis retrouvée à être en arrêt de maladie et d'être obligée de aller en avant. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai fait un procès pour harcèlement. Et ça a été très, très difficile. Et pour moi personnellement, pour deux plans, bien sûr, le côté harcèlement, le côté quand quelqu'un arrive à rentrer et de réellement me pousser à être malade de ce que je fais. Et deuxièmement, parce que c'était vraiment un travail que j'aimais beaucoup. C'était le travail de mes rêves, de travailler avec des jeunes créateurs, de les aider, de les accompagner. Mais j'étais dans... impossible de continuer.
On t'a fait perdre cette petite étincelle.
Oui. Et du coup, j'ai arrêté. Malheureusement, j'avais que fait ce poste pendant un an, mais ça a été un an très difficile. Mais ça m'a ouvert d'autres portes et ça m'a permis de savoir que j'avais envie de travailler pour moi et d'être mon propre chef et de créer mon propre entreprise. Et du coup, au moins, ça m'a donné cette opportunité.
Donc, c'est ce que tu as fait. J'imagine qu'après, tu as dû te reposer un certain temps.
Oui, mais pas très longtemps. Je me suis reposée en me disant il faut que je me concentre quand même sur autre chose. Et en même temps, de travailler sur moi-même, sur cette déception. J'ai eu la chance d'avoir mon associé Adjoa Tudor. En 2017, on a du coup décidé de créer... notre agence on accompagne du coup les marques. Du coup, je pouvais rester dans cette idée de développer des marques. Et en plus, on pouvait ajouter nos propres valeurs. Et nos valeurs, c'était cette idée de la mode durable, que la mode devrait changer, que la mode devait prendre la responsabilité de ses actions. Et ça m'a permis de partir le travail de mes rêves, ou le poste de mes rêves, mais de créer en fait mon propre entreprise qui est encore plus en lien et en cohérence avec mes valeurs.
Et comment tu as rencontré ton associé Adja?
On a fait, en fait, en tant qu'adulte, à un moment, on a fait un master dans une école de commerce pour adultes. J'avais besoin de bien comprendre, en fait, le système français, qui est très différent que le système anglo-saxon dans lequel on utilise au Danemark et même en Angleterre. Et j'avais besoin de me former sur ça. Du coup, j'ai décidé de faire un master dans une école de commerce en France, dans le management, la création d'entreprises. Et on s'est rencontrés là et on a fait tous nos projets. Toute l'année, on a travaillé ensemble. Et tout de suite après, on a su que... Oui, complètement. Coup de foudre professionnel. Complètement. On est très différentes mais on avait les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Et on savait tout de suite qu'on voulait travailler ensemble.
Et donc, vous avez créé votre agence qui s'appelle
Mandari. Mandari, ça veut dire...
Et pourquoi Mandari?
Oui, je savais que tu allais poser cette question. Mandari veut dire voir au-delà de l'horizon. C'est du Swahili, une langue de tribu en Afrique. Et ça veut vraiment dire cette idée de voir au-delà de ce qu'on voit, au-delà de l'horizon. Et pour moi, la mode signifie vraiment ça. Il fallait voir au-delà de ce qu'on voit devant nous tout de suite. Il fallait aller plus loin. Et c'était vraiment cette idée de aussi voir les personnes derrière, ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas toutes ces femmes qui travaillent derrière, toutes ces petites mains, toutes ces personnes. Mais c'est important d'avoir cette transparence, de prendre cette responsabilité, de les voir et de les mettre en lumière.
Je trouve la définition et ce choix super beau.
Merci.
Et si tu représentes un peu Mandari, qu'est-ce que vous faites? Quel service vous apportez aux marques?
Oui, alors nous, on travaille avec des marques qui n'ont pas intégré cette notion de durabilité d'écologie dès le départ. Et on les aide à retransformer leur vision et de leur responsabilité, mais tout en gardant leur identité et de leur marque. C'est-à-dire, chaque marque, quand il a été créé, a une ADN, ils ont déjà une vision, une image de marque. Et nous, on les aide à en lien avec ça, mais de les diriger vers des notions plus responsables et de leur faire comprendre que toutes leurs actions et leurs marques, ils ont un impact sur l'environnement et aussi sur les humains, et de remettre ça au centre. C'est-à-dire, on travaille avec eux sur toute la chaîne d'approvisionnement. Nous, on travaille en trois phases, c'est-à-dire on fait une première phase qui est l'audit. On travaille avec eux de comprendre où ils ont en ce moment, quel est leur impact aujourd'hui. Après, la deuxième phase, c'est l'interne, parce que ce qui est quelque chose pour nous qui est très important, c'est que toute personne à l'intérieur de l'entreprise comprenne quel est leur impact, comprenne leur responsabilité. Ça fait que si on travaille qu'avec la direction, bah, peut-être la personne qui fait les achats ne sait pas qu'il doit choisir une matière plus durable ou jusqu'à quel point ils peuvent aller. Bien sûr, il faut que ce soit la direction qui donne une ligne directive, mais il faut que chaque personne à l'intérieur de l'entreprise comprenne qu'eux, ils sont une valeur à ajouter. Du coup, ça, c'est notre deuxième partie. Et la troisième partie, c'est là où on commence à communiquer auprès de sa cible. Parce que bien sûr, toute marque ne va pas faire tout ce travail s'il ne peut pas aussi le communiquer auprès de la cible et auprès de leurs clients. Mais pour nous, c'est vraiment la dernière partie du travail. La première partie, c'est vraiment de définir ses missions et de comprendre le travail que ça demande. Parce que ce n'est pas si facile. La chaîne d'approvisionnement dans la mode est très complexe. Et c'est difficile pour les marques de comprendre et de savoir tout ce qui se passe. Mais c'est réellement important. Du coup, on travaille sur ça, sur les aider dans cette transition et de définir des nouvelles valeurs et de faire des rapports RSE.
Et je trouve ça super intéressant parce que j'imagine que pour une marque qui souhaite en fait être plus responsable, c'est pas toujours facile en fait de se dire du jour au lendemain je vais prendre des matières beaucoup plus saines que ce que j'avais l'habitude, et j'imagine qu'il y a tout un process sur lequel on a besoin d'être accompagné pour faire les bons choix.
Oui, tout à fait, c'est très complexe et en plus ça évolue tout le temps, c'est-à-dire les matières responsables d'hier ne sont pas responsables demain parce qu'on a de plus en plus d'infos. Nous, on a développé 12 étapes pour aider l'entreprise à comprendre que ça demande réellement un travail discipliné d'avancer. C'est pas juste de changer les matières, c'est aussi de comprendre ses fournisseurs, c'est de parler avec ses fournisseurs, c'est de changer de l'emballage, c'est de voir quelle est la teinture que vous utilisez, qu'est-ce que vous faites avec les vêtements après, est-ce qu'il y a, vous avez réfléchi à l'entretien des vêtements. C'est un travail sur la durée, mais pour nous c'est indispensable que chaque marque s'y met à réellement faire ce travail. Et dans notre expérience, moi je le vois, quasiment toutes marques ont commencé. Mais on voit que, comme tu dis, la difficulté, c'est de réellement avoir une vraie stratégie. Beaucoup de marques font un petit effort ici, un petit effort là. Mais de réellement avoir une stratégie et d'avoir une ligne directive, je pense que pour ça, c'est important d'avoir de l'aide de l'extérieur. Ça peut être difficile pour une marque toute seule de créer ça.
C'est vrai. En tout cas, je mettrai le lien de ton site. Je pense que vous aviez refait votre site récemment.
Oui, tout à fait. On a refait le site parce que vu qu'on a on travaillait beaucoup avec au début d'accompagner les toutes jeunes marques, et même si ça nous parlait beaucoup, on avait une sensation qu'il y avait plus besoin pour les marques un peu plus grandes pour eux de changer, parce qu'en fait les jeunes marques ils ont déjà la notion du développement durable. C'est impressionnant de voir que toutes ces nouvelles générations ont tous cette idée. Il y a du upcycling ou du recyclage ou des matières durables. Toutes ces notions sont déjà intégrées dans leur manière de faire. Et c'est surtout en plus les marques d'une autre époque, des marques qui sont plus grandes aujourd'hui, qui a besoin, à mon sens, de changer. Et l'impact qu'eux, ils ont est énorme. Ils ont vraiment besoin de changer.
Donc maintenant, vous travaillez plus avec les marques moyennes et grandes.
Oui, tout à fait.
Les jeunes marques.
Oui, tout à fait. Oui.
Dans tous les cas, je mettrai le lien pour toutes les personnes intéressées. Et si on passe à la troisième partie du podcast, qui est beaucoup liée sur tes inspirations, quels seraient les trois créateurs ou marques qui incarnent ta vision de la modestie dans la mode ?
Moi j'aime beaucoup, en ce moment je suis très inspirée par Jeanne Biséréal, qui est une créatrice qui vient de revenir de la Villa Médicis, où elle a passé un an, et elle a créé un studio de recherche et d'innovation qui s'appelle Clinique Vestimentaire. Et j'aime beaucoup sa vision de la mode. Elle essaye de travailler sur comment réintégrer le sur-mesure dans la création contemporaine. Et cette idée de comment on peut créer des vêtements qui sont vraiment faits sur-mesure pour une personne, mais en grande quantité. Et je trouve ça très intéressant. Les plus sont, je dirais, artiste, chercheuse que peut-être réellement créatrice. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle essaye de redéfinir les notions de la mode. Elle me fait beaucoup penser, je sais qu'elle a travaillé pour Hüseyin Çalaya, et le créateur turc. Et elle me fait beaucoup penser à lui, effectivement. Elle a cette notion où elle peut... Lui, il avait fait une collaboration avec H&M et en même temps, il a fait des expositions au MoMA. J'aime bien cette idée entre le lien entre pouvoir vendre la mode pour le tous les jours, pour le quotidien, et en même temps, remettre la mode un peu dans la notion de l'art, de l'exposer comme... comme une forme artistique. Je trouve ça très, très, très inspirant.
Mmh. Et c'est intéressant parce que moi, je l'ai découvert aussi récemment, quelques mois, Jeanne Biséréal sur Instagram.
Oui.
Et c'est vrai que son travail m'a beaucoup touchée, en fait. Et c'est super intéressant que t'en parles parce que moi, je l'ai découvert que très récemment sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Ouais, elle est vraiment très chouette. En plus, elle ne suit pas la mode traditionnelle en France. Elle n'essaie pas de faire partie de la Fashion Week ou même les fédérations. Elle est comme à part. Elle est dans un monde de plus souterraine. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. C'est clairement une femme à suivre.
Et il y aurait d'autres marques ou créateurs, créatrices?
Oui, j'en ai plein. Hein. Mais j'ai essayé de trouver peut-être des choix un peu différents. Moi, j'aime beaucoup la marque Les Récupérables, qui est une marque française qui a leur boutique dans le 18e. Parce que je trouve qu'ils sont réussi à intégrer, du coup, ils font du upcycling. Ça, c'est leur métier de base. Mais en plus, pour la production, ils travaillent avec la réinsertion. Et je trouve que toute leur histoire de cette marque est vraiment très intéressante. De réfléchir complètement différent à la mode et de la production. Je trouve ça très, très chouette.
Ouais. Et je ne connaissais pas, c'est une nouvelle marque ou elle est depuis longtemps ?
Non, je pense que ça fait un moment qu'ils sont là. Les Récupérables, ça s'appelle, et c'est leur boutique dans le 18e, ils sont en plein dans le Goutte d'Or. C'est vraiment très très chouette. C'est la boutique est super belle. Chaque pièce est du coup individuelle parce que c'est des tissus qui récupèrent. Du coup, de temps en temps, il y a on va dire 6 mètres, de temps en temps, il y en a peut-être 50. Et du coup, la production est faite en fonction de ça. Et du coup, on peut trouver tout le temps des pièces différentes.
Des pièces uniques.
Ouais. Et ce sont des jeunes qui l'ont créé cette marque et c'est très chouette. Et même dans la boutique, on peut de temps en temps les voir coudre, être en train de réparer quelque chose. Je les ai trouvées très inspirantes et avec une très bonne énergie, en plus de faire travailler. Ils travaillent principalement avec la production en France. Du coup, c'était avec ces usines qui utilisent la réinsertion pour retravailler des jeunes ou des moins jeunes. Et je trouve ça très, très honorable.
Merci pour cette belle découverte. J'irai voir ce qu'ils font.
Ouais, avec plaisir.
Et la troisième que tu pourrais nous partager.
Oui, alors j'aime beaucoup, après ça n'a, c'est peut-être moins modeste, on va dire, c'est la marque de jeans Nudie Jeans. Je sais pas si tu le connaissais. C'est,
non.
C'est une marque suédoise qui font, c'est une marque de jeans, de denim. Et c'est une marque qui est aussi, je trouve, très inspirante parce qu'ils ont réellement réfléchi à toute la chaîne, c'est-à-dire ils utilisent uniquement du coton bio. Ils font attention à toutes les teintures pour que ça soit pas des teintures polluantes, parce que ça c'est un très gros problème avec le denim, c'est la teinture, l'indigo, qui pollue énormément les eaux et du coup les rivières et l'océan. Ils ont aussi réfléchi à l'entretien. C'est-à-dire, si tu vas sur leur site, ils expliquent que le denim est une matière qui n'a pas besoin d'être lavée. Bien sûr, c'est une tâche où on peut le laver, mais sinon, c'est vraiment le vrai jean brut est mieux s'il n'est pas lavé. Et il y a des puristes qui veulent te dire qu'il ne faut jamais laver un jean. Je ne vais peut-être pas arriver jusque-là, mais j'aime bien l'idée que à chaque fois on lave en fait un jean, on peut polluer le monde, non seulement avec la teinture, mais aussi avec des microfibres qui partent dans les océans. Et j'aime bien leur discours qui donne cette notion et éduque en fait leur clientèle que ce n'est pas nécessaire. Et en plus, ils sont.
Cette approche, je trouve qu'elle est un peu comme de modestie, quand même.
Oui.
Le fait de penser. Parce qu'au début, tu disais qu'elle n'était pas trop modeste. Moi, je trouve que c'est une belle manière d'incarner la modestie, le fait de se permettre de se remettre en question sur cette notion du jean et comprendre aussi comment il est fait.
Oui, non, mais tu as raison. Je voulais dire que c'est une marque comme Levi's et les autres dans son idée de base. Mais je trouve qu'ils sont allés plus loin. Et effectivement, ça la rend plus modeste dans leur... ils comprennent que leur produit de base a un grand impact sur l'environnement. Je trouve qu'ils prennent cette responsabilité de dire, effectivement, on produit des jeans, mais on va aussi vous aider à comprendre. Nous, on fait notre part, dans le sens qu'ils sélectionnent du coton bio, ils essayent de faire un effort pour la teinture, mais eux aussi, ils donnent une responsabilité auprès de leur cible en disant, vous aussi, vous pouvez faire votre partie. Et en plus, il me semble qu'ils sont, ils récupèrent aussi les jeans, du coup, soit ils les réparent, du coup, s'il y a un problème avec le jean, on peut les réparer, et soit ils le récupèrent pour les revendre. Et les jeans qui sont complètement détruites, il les met pour le recyclage. Du coup, ils ont réellement pensé toute la partie jusqu'à la fin de vie du produit. Ils prennent cette responsabilité. Ça, c'est quelque chose que je trouve est rare pour des marques d'avoir un engagement si poussé. Donc, je trouve ça très inspirant.
Surtout pour cette marque qui n'est pas jeune, en fait. Si j'ai bien compris.
Non, c'est pas du tout une marque jeune. Non. Ouais, c'est. Et bon, il faut dire que la Suède n'est pas du tout. C'est aussi de Suède que vient H&M, COS, toutes ces grandes enseignes qui n'ont pas cette notion. Mais du coup, c'est beau de voir qu'il y a aussi des marques qui viennent, qui ont un tout autre discours et un tout autre engagement.
Et si maintenant on parle de l'art, quels seraient les artistes qui incarnent ta vision de la modestie dans l'art ?
Alors, je voulais surtout nommer une femme qui s'appelle Marie Krøyer, une femme danoise, une peintre, qui était le femme de Peter Krøyer. Peter Krøyer a été un très grand peintre danois et qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Skansmaler, qui était à une partie dans le nord du Danemark, et qui a un groupe de peintres qui a beaucoup d'influence en fin 19e, début 20e siècle. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que cette femme était elle-même avait un talent immense. Mais étant femme d'un grand peintre, elle s'est mise en retrait. Elle a peu exposé ses créations. Et on soupçonne en fait qu'elle a eu même une très grande influence sur lui. Et elle avait vraiment cet talent d'un style naturaliste, assez inspiré des impressionnistes français. Et je trouve que c'est beau et en même temps un peu triste que cette femme s'est retrouvée derrière cet homme et qu'elle avait un tel talent. Mais elle a dû rester humble à côté pour ne pas prendre la place de son homme. Ça
c'est triste, mais je pense qu'à cette époque, c'était un peu le cas. Les femmes, elles n'étaient pas forcément mises en valeur.
Voilà, exactement. En tout cas, c'était difficile si tu faisais le même métier que ton mari. Et en même temps, elle parle aussi beaucoup que, bah, en même temps de peindre, elle avait aussi besoin de faire la cuisine, de faire le ménage, de s'occuper des enfants, pour que monsieur avait du temps pour peindre. Je trouve ça très beau qu'elle a quand même continué de peindre, parce qu'elle aurait pu arrêter et se dire bon, c'est pas ma place, mais et que surtout elle avait peu de reconnaissance, mais elle a peint parce que c'était une vraie artiste et qu'elle avait besoin de ça pour vivre, et heureusement qu'elle a été reconnue plus tard pour son talent. Je trouvais ça très beau parce qu'elle est probablement pas la seule.
Et tu aurais d'autres références ?
Oui, dans le contemporain, il y a un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Levillane. Je le trouve assez modeste aussi dans sa manière de travailler, une toute autre manière que Marie Kroll. Lui, il prend des photos, presque des photos un peu sans importance, qui sont mal prises. Et d'une soirée ou d'un endroit. Et après, il le peint, mais dans un hyper réalisme. C'est vraiment, on a la sensation qu'il a copié la réalité. Et ça m'a fait penser, il y a Oscar Wilde qui dit toujours cette notion que la nature imite l'art. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'il a copié une réalité, mais c'est peut-être l'art qui en fait, la nature qui copiait l'art. C'est à voir dans quel sens on veut le voir. Mais lui, il a un énorme, immense talent. Et j'aime bien le temps que ça va prendre de copier une image. Je trouve ça, il y a un côté assez modeste là-dedans. Et de prendre des photos qui n'ont pas beaucoup d'importance ou beaucoup de valeur. Et de faire un tableau qui tout d'un coup a beaucoup de valeur. J'ai bien aimé ça.
Et quand tu dis des photos qui n'ont pas d'importance, par exemple, qu'est-ce qu'il prend en photo ? Qu'est-ce qu'il
Ça peut par exemple mettre dans une soirée, dans une fête, et il prend une photo de la table où il y a des bouteilles, des cigarettes, il y a un pied dans le coin. Mais des photos où. C'est comme des photos qu'on regarde sur son iPhone après une soirée, on les supprime parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi cette photo a été prise.
Ou lui, des photos qu'on prend par inadvertance.
Voilà, exactement. Et lui, il adore peindre ça. Et franchement, j'ai vu une expo de lui il n'y a pas longtemps et c'est impressionnant. On dirait vraiment que c'est une photo et que c'est pas un tableau. Je trouvais ça très, très beau comme... Voilà. Et sinon, je me suis dit que en fait, les artistes que je trouve les plus modestes aujourd'hui et que je respecte énormément, ce sont ce qu'on appelle les petites mains du monde du luxe. C'est toutes ces gens qui font la broderie pour la haute couture ou qui font la dentelle. Pour moi, ça c'est, à mon sens, c'est l'incarnation de la modestie dans l'art. Ce sont des vrais artistes. C'est pas les créateurs qu'on met en avant. Ouais, c'est très très beau ça. Et à Pantin, il y a Chanel qui les a regroupés. J'ai eu de la chance de les visiter. Et c'est vraiment, ce sont des petites mains de fées, réellement, qui travaillent. Mmh. Ça, pour moi, c'est vraiment des artistes. Mais malheureusement, ils sont peu mis en lumière.
Ouais. Et est-ce que tu pourrais parler d'une exposition Aromode qui t'a marqué?
Oui, j'ai eu de la chance. Nous, on a vécu un an en Italie avec mon mari. Et j'avais visité le musée du papier à Amalfi. Et ça m'a profondément marqué. C'est une musée qui est très ancienne. Et de l'extérieur n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en fait c'est un musée qui crée du papier à l'ancienne. Et ce que je savais pas et que j'ai découvert, c'est qu'ils utilisaient des tissus, des vieux tissus pour faire du papier. Et du coup le musée montre, du coup l'exposition, on rentre et on voit comment on a des petits morceaux de tissu que du coup ils mettent dans des moulins avec de l'eau. Pour faire une sorte, on dirait comme des flocons d'avoine cuite, tu sais, une masse. Et qu'après, il remet, il sèche d'une certaine manière pour faire du papier. Et j'ai trouvé ça très, très beau parce que c'est... Je me souviens pas de quelle date ça date, ce musée ou cette...
Et je trouve ça intéressant, j'ai pas imaginé du papier réalisé à base de tissu.
Ouais, moi je savais pas ça non plus, que je travaille dans toute cette idée du recyclage et je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et ça m'a donné ça m'a vraiment inspirée en me disant, mais on devrait revenir à ça. On devrait revenir à faire du carton, parce qu'il peut le faire en plusieurs épaisseurs. On peut faire du carton, on peut faire plein de choses avec des vêtements recyclés. Et en plus, ça prenait la couleur des différents tissus. C'était magnifique à voir. Ça m'a beaucoup marqué.
Oui, tu dis que c'est en Italie.
C'est en Italie, c'est à Amalfi. Amalfi, c'est sur la côte amalfitaine. C'est magnifique. C'est une toute petite musée... peu d'intérêt vraiment de l'extérieur, mais l'idée est magnifique.
Et donc ça en vaut le détour.
Oui, exactement.
Donc je le noterai dans ma wishlist.
Voilà, ma wishlist, ça c'est jamais une occasion. Ah oui, ça vaut vraiment la peine. Déjà la Côte d'Amalfitaine, c'est magnifique. Alors ça vaut déjà la peine d'y aller, mais ce petit perle bien caché, c'est vraiment très beau.
Merci beaucoup pour cette recommandation. Et la question avant de passer au mot de la fin, comment tu nourris ta créativité, ne serait-ce que par des livres, des comptes que tu suis sur les réseaux sociaux ou autres?
Oui, très intéressant. Je me nourris beaucoup de livres, j'avoue. Je vis avec un écrivain, du coup j'ai vraiment la chance de déjà avoir beaucoup de livres à la maison, mais aussi de rencontrer, de fréquenter beaucoup d'écrivains. Et c'est vrai qu'eux, ils sont, en règle générale, des gens très intéressants et très inspirants.
Et quel livre tu pourrais nous recommander, tes préférés?
En ce moment, je viens de terminer Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet, qui parle d'un réseau de militants et de chercheurs pour créer un monde écologique. En fait, c'est vraiment cette idée que de partout dans le monde, il y a des problématiques. Et du coup, toute l'histoire, on suit les différents personnages qui partent dans le monde pour faire leur travail, pour rendre le monde plus écologique. C'est... Le réseau s'appelle Télémark, je crois. C'est très intelligent, c'est très inspirant et ça a vraiment donné... moi, en ce moment, je travaille avec une association qui s'appelle Culture de Mode et ça m'a vraiment rappelé de ça, c'est cette idée de vouloir créer un réseau qu'il faut que dans la mode ou comme dans tout, hein, il faut qu'on travaille ensemble. On peut pas changer le monde individuellement. Il faut absolument qu'on crée des réseaux. Exactement ce que tu fais aussi avec ce podcast, c'est de réunir les gens, de faire parler différents types de personnes pour qu'ensemble on va vers un monde meilleur. Et pour moi, ce livre, c'est vraiment ça. C'est très très beau. Il est sorti là en septembre. Du coup, en plus, ça fait de soutenir un jeune écrivain qui aussi souffre beaucoup là en ce moment avec le confinement parce que les librairies sont fermées. Du coup, c'est très difficile pour eux. Mmh. Ouais. Et sinon, bah, bien sûr, il y a Cyril Dion. Je ne sais pas si tu connais. Lui, il a fait le film Demain avec Mélanie Laurent sur notamment le côté aussi écologique. Et c'est pas que je lis que sur ça, mais effectivement, ça m'inspire beaucoup. Et son livre, Le petit manuel de résistance contemporaine, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est très très beau ce livre qui parle de toute cette idée de construire et que notre monde est construit de récits. La religion, c'est un récit, c'est une histoire en fait. L'argent, c'est une histoire. L'argent n'existait pas. Si demain le papier que nous on appelle l'argent n'a pas de valeur, c'est parce qu'on a on l'a donné.
À part celle que l'on nous donne.
Ouais, c'est vrai. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que lui, il dit que on peut que changer, on peut que aller vers une consommation modeste ou de changer réellement notre monde capitaliste si on crée un nouveau récit. Et ça m'a beaucoup parlé parce que pour moi, c'est exactement ce qu'on devrait faire pour la mode. On doit créer un nouveau récit, une nouvelle idée, une nouvelle tendance et même des nouvelles envies, d'avoir envie de changer de mode et de vêtements tous les jours, tout le temps. C'est une histoire, c'est un besoin qu'on a créé. Mais je pense que si on change cette histoire, on donne la valeur aux personnes et même comprendre la valeur du vêtement et le travail que ça fait, on peut changer cette histoire et du coup changer notre mentalité.
J'ai envie de dire que c'est une belle transition vers le mot de la fin parce que j'allais te demander quelles évolutions quelle évolution souhaiterais-tu voir dans l'industrie de la mode et ce serait en fait créer un nouveau récit.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, il nous faut une révolution. Il nous faut réellement changer tout le fonctionnement des systèmes actuels et passer sur cette consommation de boulimique, démesuré par rapport à le besoin et qu'il y ait avec tout le monde, hein. C'est pas que la mode qui est comme ça, mais ça montre très bien notre monde capitaliste et je pense qu'il faut le changer et je pense que ça vient avec une nouvelle histoire, une nouvelle récit et ça vient avec
Qu'est-ce que nous pourrions faire à titre individuel pour justement créer ce nouveau récit?
Oui, à titre individuel, il y a beaucoup de choses à faire. C'est surtout de bien choisir les marques dans lesquelles on soutient. En fait, si on n'achète pas, si on est un grand nombre de personnes à ne pas acheter H&M, H&M ne peut pas fonctionner parce que c'est basé uniquement sur le fait que beaucoup de gens l'achètent. Du coup, en tant que personne, je pense qu'on a cette... on peut s'engager dans quelque chose et on peut avoir un réel impact sur la mode si on décide de ne pas acheter des grandes enseignes, mais de soutenir les petits créateurs, les petites marques. On peut aussi utiliser les vêtements qu'on a déjà plus longtemps et de comprendre ce que c'est de réparer un vêtement, ce que c'est de bien l'entretenir. Ça a une valeur aussi. Ça peut... Je ne me souviens pas les chiffres, mais il y a beaucoup de vêtements qu'on n'utilise jamais. Donc, comme une chiffre de... Je crois que c'est 30% de tous les vêtements qu'on a dans les placards sont jamais utilisés. Ça semble complètement aberrant. Je pense qu'on peut
trouver un moyen d'en
changer cette notion. Et après, bien sûr, de sélectionner des pièces de bonne qualité. Et ça va aussi avec une éducation. Et vu qu'il n'y a pas d'éducation sur réparer ou sur entretenir les vêtements comme il y avait à l'époque, c'est peut-être plus difficile.
C'est vrai. Et acheter moins, mais mieux, en fait.
Tout à fait.
Qui revient à acheter beaucoup plus qualitatif que de manière quantitative.
Complètement.
Et à titre et en tant que marque, j'imagine que ce qu'il faut faire, c'est revoir sa chaîne de valeur et repenser en fait ses process et voir quelles améliorations on pourrait mettre en place pour avoir un système beaucoup plus sain et beaucoup plus en accord avec la nature et l'être humain de manière générale.
Oui, tout à fait. Tu l'as dit très très joliment. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est de remettre le respect de l'humain au centre que toutes les actions. Comme ça, si on pense à chaque fois qui l'a fait, quelle est la personne derrière qui doit le faire, qui le travaille, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit respecté et respectable, je pense que ça, on pourrait aller très loin avec les marques.
En tout cas, Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange.
Merci beaucoup, Nadia.
J'ai vraiment adoré. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris, ne serait-ce que par rapport à ton parcours, ton entreprise, tes inspirations. Vraiment, merci encore d'avoir accepté mon invitation.
De rien. Merci à toi.
Et juste avant, parce qu'à chaque fois, faut que j'oublie cette question, mais si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter?
On peut me contacter par le site, ou sinon, on peut aussi me trouver sur LinkedIn ou sur... m'envoyer un email.
D'accord, je mettrai toutes les informations en description. Merci encore Stéphanie, je te dis à très bientôt.
Merci à toi.